En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission, vous allez entendre le philosophe historien Pierre Magnard, professeur émérite de philosophie de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Il intervenait lors du colloque organisé par la Fondation Ostade Elahi à l'occasion de la 10e journée de la solidarité humaine le 10 septembre 2011 sur le thème « Quelle sagesse pour notre temps ?». Pierre Magnard a intitulé son intervention « Unicité de Dieu, unicité du genre humain ». L'émission que vous allez écouter se divise en deux moments, deux parties. Dans la première, Pierre Magnard développe son propos sur la sagesse chrétienne. Dans la seconde, il répond à quelques questions posées par le journaliste Jacques Pogam.
Je partirai de l'évocation d'une toile, qui sera la toile de fond de mon propos. Hubert Robert, vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine, 1786. Est-il représentation plus prophétique que celle de ce grand peintre? Quand il donne l'état de la France à la veille du grand cataclysme, un héritage sans testament, des héritiers sans mandat, dès lors incapables de recevoir, de conserver et de transmettre. Voilà ce qu'a voulu suggérer Hubert Robert. Mais en quoi cette interpellation s'adresse-t-elle à nous ? En ce qu'elle nous permet de surprendre, en quelques mots, la situation de notre monde et de nous demander s'il est une sagesse encore pour notre temps. Un monde en crise. Crise, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ? Le mot n'a plus du tout le sens qu'il avait encore sous la plume du bon Edmond Husserl, quand il espérait que cette Europe bloquée pourrait peut-être trouver dans les ressources de la raison le moyen de sortir. Crise veut dire aujourd'hui précisément système grippé qui ne saurait trouver en lui-même les ressources de sa réadaptation. Et c'est pourquoi il faut conjuguer au mot crise le mot « chaos ». Notre monde est en état de chaos du fait de l'imprévisibilité où nous sommes de l'événement qui doit suivre. Plus de prospective. Il y a bien longtemps que la notion de progrès est passée par profits et pertes, mais plus même de calcul prévisionnel. Le navire marche à la cape, c'est-à-dire que plus rien, plus personne ne peut tenir le gouvernail, sans quoi les lames briseraient l'esquif. Un homme donc désorienté au sens propre du mot. Il a perdu son orient. Et s'il est un mot dans la langue française qui traduit cela exactement, c'est le mot « désastre ». Car « désastre », cela veut dire que l'on a perdu son astre. Le laboureur de toujours qui marchait à l'étoile n'a plus d'étoile. Et c'est précisément cette situation qui m'amène à ajouter un autre mot tout aussi sombre, le mot décombre. L'homme actuel, c'est l'homme des décombres. L'homme des décombres a bien été décrit par Nietzsche. Quand, envisageant ce que nous appelons aujourd'hui globalisation ou sécularisation, il imagine cette meule impitoyable qui, passant sur toutes les structures, sur toutes les constructions, sur tous les édifices, sur toutes les traditions, sur toutes les cultures, réduit l'homme en sable. L'homme de sable, comme il le dit, ne prenons-nous pas le plus court chemin pour transformer l'humanité en sable, en sable fin, doux, rond, infini. Mais rien n'est plus semblable à un grain de silice qu'un autre grain de silice. Et on n'imagine pas que l'on puisse retrouver des liens quand on a largué tout ceci. La silice plus la silice, cela fait un tas, un monceau. Et jamais la logique de l'entassement n'a pu reconstituer une humanité. Nous nous trouvons donc devant bel et bien un monde en décombre où l'homme de sable, dans cette déliaison de tous les liens essentiels, ne peut que découvrir sa dimension unidimensionnelle, pour reprendre encore un mot bien usité aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui n'a plus ni hauteur ni profondeur, mais qui, dans l'horizontalité de la satisfaction de ses besoins, ne fait qu'obéir aux forces du droit et aux lois du marché. Il a perdu toute transcendance, il ne se dresse plus vers le ciel, la station debout lui est devenue étrangère, le style même est devenu la chose la plus incongrue dans les livres qui paraissent à l'étal des librairies, car style, n'oublions pas, c'est sto et c'est se tenir debout. Horizontalité de cet homme qui n'a plus ce qu'avait l'homme de Chauvet, la possibilité de se dresser vers le ciel pour contempler précisément sur la voûte de la grotte un raccourci du firmament. Il ne l'a plus, il a perdu toute transcendance. Et cet homme-là qui s'interroge aujourd'hui sur la possibilité qu'il pourrait avoir de retrouver une sagesse. L'individu. Mais l'individu, qu'est-ce que c'est? Définissons-le. C'est très exactement la synecdoque misérable de la foule. Rien d'autre. Pourtant, c'est cet individu qui est en charge de la recherche de moyens de s'en sortir. Et cette recherche, il va le faire, bien sûr, en réinventant périodiquement la sagesse traditionnelle, en cherchant dans la maîtrise de soi ce qui pourrait lui permettre de diminuer l'espace qui le sépare de l'événement lequel il ne peut éviter et qui ne manquera pas de le briser. Maîtrise de soi. Voilà une notion contre laquelle je m'inscris en faux, quelque respect que je puis avoir pour le stoïcisme impérial. Il s'inscrivait encore dans un certain ordre. Il s'inscrivait encore dans un certain monde, le stoïcisme d'Épictète et de Marc Aurèle. Et c'est pourquoi je préférerais parler d'empire de soi. Considérons que l'empire de soi n'est pas la maîtrise de soi. Cette notion sur laquelle j'ai médité pendant quelque 20 ans et que j'ai léguée en quelque sorte à mes héritiers, qui la développent aujourd'hui, désigne ce que j'appelle la maîtrise de la volonté qui ne tient que sur elle-même et par elle-même. Comme si ce qui s'opposait à l'empire de soi, à la maîtrise de soi, c'était que la maîtrise de soi cherchait encore appui dans l'être, alors que l'empire de soi ne cherche maîtrise qu'en soi-même. Et ceci parce que il nous faut bien comprendre que nous avons l'obligation, si je puis dire, de changer de registre et de changer de contexte philosophique. Qu'est-ce qui caractérise l'univers ancien? Celui qui s'en est allé, celui qui ne nous a même pas transmis nos lettres de créance et nos droits d'hériter. Ce qu'il caractérisait, c'était très exactement la confusion du théologique et du politique. C'était précisément cet ordre théologico-politique qui aboutira au processus de sécularisation et qui donne aujourd'hui à ceux qui croient s'être libérés d'un théologique le sentiment que le politique est arrivé à maturité sans se rendre compte de l'imposture dans laquelle nous nous trouvons, car en fait de libération, nous n'avons gardé du théologique que ce qui pouvait encore et toujours asservir l'homme. Si nous nous affranchissons du théologique politique, c'est pour repenser radicalement la relation au principe que nous avons trop l'habitude de définir dans la convertibilité de l'un et de l'être, et qu'il nous faudrait enfin considérer dans la disjonction de l'un et de l'autre, car si l'être produit, l'un ordonne. Leur convertibilité, c'est la pesanteur d'un système qui nous écrase. Leur disjonction, c'est la légèreté pour l'être et pour l'un. Et cette légèreté reconquise, à travers toute la tradition néoplatonicienne et qui pourrait nous y aider, nous achemine à mon point final, qui est le sens proprement chrétien de ce cheminement. Car en effet, ce qui nous amènerait à découvrir au cœur de cette intériorité éprouvée dans l'empire de soi, c'est très exactement ce que Maître Eckhart appelait l'incréé. L'incréé que chaque homme porte en lui-même, comme ce qu'il y a en lui d'essentiel. L'incréé comme le lieu natal de Dieu en ce bas monde, comme je disais à propos de Pascal, mais que déjà anticipaient Thierry de Freyberg et Nicolas de Cuse. L'incréé, c'est donc ce qui nous justifie d'exister. Mais alors, d'un mot, terminons et comprenons ce que je demande au fond à mes lecteurs, chose éminemment difficile, celle de considérer que ce qui compte, c'est au fond simplement de laisser Dieu être Dieu en nous-mêmes. Et alors, le désastre prend fin et nous retrouvons notre étoile.
Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais j'avais l'impression que dans les mânes de l'histoire philosophique, il y avait un Léon Blois qui se réveillait. C'était quand même une fougue, une force exceptionnelle. J'ai, paradoxalement, Pierre, j'ai envie de vous dire, ben, tant mieux, alors, au fond. Tant mieux si ça se passe comme ça, si l'homme est désorienté, si ce sont les désastres et les décombres, puisque cette table rase dans le sable, comme vous dites, ça donne à Dieu une existence plus forte en nous, puisque nous sommes complètement paumés, quoi. C'est ça ? C'est ça qu'il faut se dire, aujourd'hui ? C'est...
Ce que je vous répondrai, c'est que j'ai toujours été joyeux. J'ai toujours vécu dans la joie. Je n'ai jamais été morose, je n'ai jamais été triste. Et les désastres, au fond, il faut savoir les dépasser. À quoi tiennent-ils, ces désastres ? Et en quoi tenons-nous à eux ? En ce que ces cathédrales de sens, ces architectures prestigieuses qui nous accompagnent dans nos souvenirs lorsque elles ne sont plus portées par des pierres, ne laissent de subsister sur nos épaules ou dans nos mémoires ou dans notre atavisme, comme si nous tentions de récupérer quelque élément, quelque fronton, quelque fût de colonne, et qu'à partir de là, nous nous constituons quelques masures. L'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas se défaire de cet attachement à un passé. Or, ce que je voudrais, c'est que cet attachement ne soit pas nostalgique, comme il l'est devenu trop souvent dans ce que nous appelons aujourd'hui la culture, pour laquelle il a fallu créer un ministère précisément pour gérer la nostalgie. Ce que je voudrais, c'est que l'on ne gère pas la nostalgie.
Et une radio.
Ce que je voudrais, c'est que l'on gère l'enthousiasme. C'est que l'on gère l'espérance. C'est que l'on gère ce qu'il advient quand on découvre, dans la disjonction de l'un et de l'être, cette légèreté de l'un et de l'autre, cette disponibilité dans laquelle nous sommes par rapport aux principes. Ce fait qu'il nous advient à nous-mêmes d'être principiels, du jour où nous découvrons dans le tréfonds de notre être l'incréé. Alors ?
Oui, mais Pierre, on ne peut pas tous être des Claudel là, au pied de notre colonne, en train d'attendre Dieu qui parle en nous. Pour ceux qui ne sentent pas Dieu parler en eux, dans toute cette tradition chrétienne, pour vous, qu'est-ce qui est l'essentiel à retenir en termes de sagesse qui puisse nous aider aujourd'hui ?
Mais ce qu'il faut retenir de cette tradition, d'abord, c'est la conception qu'elle se fait de l'homme même. Certainement pas un individu, mais ce que j'ai appelé ailleurs une singularité, c'est-à-dire un nœud de relation. Ce nœud de relation qui n'est jamais plus riche, plus dense, que lorsque les relations sont plus nombreuses. De telle sorte que nous tendons à l'infini dans la multiplication des liens que nous serons créés. Or, cet infini, c'est Dieu même. C'est Dieu même dont nous portons le projet en nous-mêmes, lors même que nous essayons tout simplement de créer des liens, d'entrer en dialogue avec des gens de confessions différentes ou avec des gens sans confession. Du fait précisément que cette totalité humaine, elle est notre fait, et que nous ne sommes pas hommes en dehors de cette totalité, si cette totalité n'est pas assumée comme telle.
Pierre, merci. Je disais à mon voisin qu'on va bouleverser un peu le débat qu'on doit avoir tout à l'heure, parce que je trouve que ce que vous dites mérite quand même qu'on prenne point par point ces choses-là. J'aimerais bien que chacun réagisse à ce qui a été dit là. Toute petite question par rapport à ça, enfin toute petite question, ça va faire sourire quelques-uns, mais dans la tradition chrétienne, on a toujours tendance à dire que l'apport chrétien, à travers saint Paul en particulier, a été la mise en valeur de l'universalisme dans la recherche de la sagesse. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous considérez que le christianisme peut revendiquer un apport exceptionnel sur ce plan-là?
Je pense que l'apôtre des gentils mérite bien son nom, qui précisément parle à tous, indistinctement de toute confession, de toute religion, et que celui qui présida avec Pierre au Concile de Jérusalem pour en finir avec un rituel obsolète, lequel ne faisait que séparer certains du tout, est l'homme de l'universel. Il est l'homme de l'universel puisque il donne par là au christianisme religion des païens, c'est-à-dire art de relier entre eux tous les païens, de les tenir ensemble, car religio, c'est d'abord cela. Et si la religio n'est pas ce qui rassemble tous, elle n'est plus la religio. Une religion ne peut pas être partielle, ne peut pas être partitive, ne peut pas être ségrégative. Il faut qu'elle soit totale ou elle n'est pas. Et c'est véritablement le rêve de Paul, et c'est le rêve, au fond, de tout christianisme, car nous sommes des Pauliniens en marche vers un christianisme qui n'existe peut-être pas encore et qui embrasserait l'humanité tout entière.
Pierre Magnard, merci.
Ce colloque « Quelle sagesse pour notre temps » organisé par la Fondation Ostade et Laïs est tenu sous l'égide de l'Académie des sciences morales et politiques en partenariat avec Le Monde des religions et Canal Académie à la Fondation Simone et Sino Del Duca à Paris. Sur Canal Académie, vous pourrez entendre l'intégralité des interventions de ce colloque. Elles seront diffusées au fur et à mesure des mois qui viennent. Vous pouvez aussi écouter une émission avec le philosophe Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques qui présente ce colloque et surtout qui explique pourquoi notre époque n'est pas, selon lui, propice à trouver la sagesse. Voici les coordonnées de la Fondation Ostade et Laïs Éthique et Solidarité Humaine, une fondation reconnue d'utilité publique. Adresse postale 59 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris. Téléphone 01 47 27 14 89. Et adresse courriel info@fondationostadelaïs.fr. Et le site internet à consulter www.fondationostadelaïs.fr.